VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonsoir à tous, bienvenue à VOA Afrique. Dans moins de 10 minutes, vous aurez Sahel Plus et ce sera en compagnie de Claire Morin-Jibou. Mais tout d'abord, l'actualité. Le président tchadien affirme savoir où se trouve le chef de Boko Haram, Aboubacar Chikao, et menace de l'éliminer s'il refuse de se rendre. Idriss Déby Itno a fait cette déclaration aujourd'hui lors d'une conférence de presse à N'Djamena, en compagnie du président du Niger, Mahamadou Issoufou. Le Tchad, le Niger et le Cameroun se sont joints à la lutte que mène le Nigeria contre Boko Haram. Au Nigeria, la police a révélé ce mercredi que la femme de 33 ans, lynchée à mort dimanche par une foule en pleine rue dans le nord-est du pays n'était pas une kamikaze s'apprêtant à commettre un attentat pour le groupe islamiste Boko Haram. Jacques Aristide.
L'information a été confirmée par le porte-parole de la police de l'état de Bauchi, Haruna Mohamed, affirmant que Tabitha Haruna était atteinte d'une maladie mentale, telle que le rapporte l'AFP. La jeune femme a été battue à mort puis brûlée après avoir refusé de se prêter à un contrôle de sécurité à l'entrée d'un marché. Un drame qui traduit la psychose au Nigeria à cause du nombre croissant d'attaques perpétrées par des femmes kamikazes dans des lieux publics pour le compte de Boko Haram. Cela survient au moment où l'armée nigériane et des milices d'autodéfense affirment avoir tué plus de 70 membres du groupe islamiste lors d'un assaut en début de semaine contre la ville stratégique de Konduga, proche de Maïdougouri dans le nord-est du pays. Un pays qui s'apprête à aller aux urnes et sur ce front justement, le candidat présidentiel du Parti du Peuple du Nigeria, Kelvin Alagoa, a retiré sa candidature en faveur du président sortant Goodluck Jonathan, comme l'avait fait il y a quelques mois Abdul Jalil Tafawa Balewa, fils du premier ministre assassiné Aboubacar Tafawa Balewa.
Le procès de Simone Gbagbo s'est poursuivi aujourd'hui à Abidjan avec les plaidoiries de la défense. Les avocats de l'ex-première dame de la Côte d'Ivoire ont dénoncé une absence criante de preuves à son encontre. Rappelons qu'une peine de 10 ans a été requise hier contre l'épouse de l'ancien président Laurent Gbagbo, jugé pour atteinte à la sûreté de l'État. Au Lesotho, aucune majorité ne se dégage à l'issue des élections anticipées de samedi. Le dépouillement des bulletins est achevé, mais la commission électorale n'a pas encore fait une annonce officielle.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, 9 personnes ont été tuées par des présumés rebelles ougandais ADF dans différentes attaques menées depuis le 25 février dans le territoire de Beni. C'est ce qu'affirme la mission onusienne en RDC. Et dans le même temps, les résultats de l'offensive de l'armée contre les rebelles hutus rwandais se révèlent mitigés. C'est le constat de Josaphat Moussamba, un analyste congolais cité par l'AFP. Les miliciens tendent à éviter l'affrontement, estime-t-il, une semaine après le lancement du raid. Et toujours en République démocratique du Congo, plus de 1500 cas de choléra ont été enregistrés en l'espace de 7 semaines dans la province du Katanga. L'ONU annonce 35 décès. En Tanzanie, au moins 50 personnes sont mortes lors d'inondations qui ont touché le nord du pays. C'est le nouveau bilan donné par un responsable local. Des pluies torrentielles accompagnées de grêles et de vents violents sont tombées mardi soir sur le district de Kahama, dans la région de Chiangé, une région agricole pauvre située au sud du lac Victoria. Et selon les gardes-côtes italiens, un bateau transportant des migrants a chaviré mardi au large de la Sicile, faisant au moins 10 morts. Claire Morin-Jibou.
C'est un remorqueur affecté aux plateformes pétrolières libyennes qui a donné l'alerte. Un bateau des gardes-côtes italiens transportant déjà 318 migrants repêchés plus tôt est arrivé sur place. Avec l'aide de l'équipage du remorqueur, les gardes-côtes sont parvenus à sauver quelques 121 personnes. Mais c'est au moment où les sauveteurs se sont approchés que le drame est intervenu, a raconté à la chaîne de télévision Sky TG24 Filippo Marini, le porte-parole des gardes-côtes italien. Les migrants se sont tous précipités sur un côté du bateau qui a alors chaviré, mais la plupart des migrants ne savent pas nager. En moins de 24 heures, 7 opérations de secours ont été menées par les gardes-côtes italiens qui ont sauvé au total quelques 941 migrants dans le canal de Sicile qui sépare cette île italienne de la côte d'Afrique du Nord. Selon l'Agence européenne pour la surveillance des frontières, Frontex, le nombre des immigrés entrés illégalement dans l'Union européenne a presque triplé en 2014 par rapport à 2013. À la fin du mois de février, plus de 67 000 migrants se trouvaient dans des centres d'accueil pour réfugiés en Italie.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Ici aux États-Unis, ce mercredi, émotion à Boston avec l'ouverture du procès de l'auteur présumé des attentats d'avril 2013 en marge du marathon de la ville. De nombreuses victimes ont assisté à la première audience. Seul suspect survivant, Zoka Sarnaev, n'a pas été très bavard lors de cette première journée. Le procès devrait durer jusqu'en juin. C'est au juré que reviendra la charge de décider de la culpabilité de l'accusé. Puis dans une deuxième phase de la sentence qui ne peut être que la peine de mort ou la réclusion à perpétuité. Fin des discussions sur le nucléaire iranien à Genève. Après trois jours de pourparlers entre Iraniens et Américains sur un éventuel accord, difficile de dire si des progrès ont été faits. Nicolas Pineau.
Tout accord avec l'Iran devra recevoir l'approbation de la communauté internationale, a assuré ce mercredi John Kerry. Après trois jours de discussions en Suisse avec son homologue iranien Mohamed Javad Zarif, le secrétaire d'État américain a reconnu des échanges difficiles et intenses, mais selon lui, des progrès ont été accomplis. C'est à présent l'heure des choix, a insisté M. Kerry. Le chef de la diplomatie américaine est à présent attendu en Arabie Saoudite. Il rencontrera samedi à Paris ses homologues britanniques, français et allemands pour faire le point. Les prochains entretiens bilatéraux entre Américains et Iraniens auront lieu le 15 mars, probablement à Genève. L'heure tourne, puisqu'un éventuel accord doit intervenir d'ici le 31 mars. L'accord complet doit lui être détaillé d'ici le 30 juin pour garantir la nature pacifique et uniquement civile du programme nucléaire iranien en échange d'une levée des sanctions internationales.
Merci Nicolas Pineau. Les corps de 10 mineurs tués dans une explosion de méthane à l'intérieur d'une mine dans l'Est séparatiste pro-russe de l'Ukraine ont été retrouvés aujourd'hui. C'est ce qu'en annoncent les autorités régionales. L'administration de Donetsk, fidèle au gouvernement ukrainien, fait état de 10 morts, bilan qui a été confirmé à l'AFP par un responsable des forces rebelles. Le sort de 23 autres mineurs reste inconnu. 230 personnes étaient dans la mine au moment de l'explosion. 198 ont été évacués selon l'administration séparatiste citée par l'agence. Le gouvernement russe affirme avoir identifié des suspects dans l'assassinat de l'opposant Boris Nemtsov. Par ailleurs, le président Vladimir Poutine a reconnu aujourd'hui que ce meurtre a été perpétré pour des motifs politiques. Les crimes de grande envergure, y compris ceux qui ont un motif politique, ne devraient plus se produire en Russie, a dit M. Poutine lors d'une réunion télévisée au ministère de l'Intérieur. Boris Nemtsov, un farouche opposant de M. Poutine, a reçu 4 balles dans le dos dans la nuit de vendredi à samedi à quelques pas du Kremlin. Il est mort la veille d'une manifestation contre l'intervention de la Russie en Ukraine. Il y a des suspects, mais l'enquête se poursuit, a déclaré le chef de la sûreté fédérale russe, Alexander Bornitkov. En Irak, troisième jour de l'offensive contre la ville de Tikrit, à 160 km au nord de Bagdad, occupée depuis juin dernier par le groupe État islamique. L'armée irakienne aidée de miliciens chiites, de tribus sunnites et de combattants kurdes tentait aujourd'hui d'encercler les djihadistes et de couper leur ligne d'approvisionnement. L'objectif est d'encercler totalement l'État islamique avant de l'attaquer, a déclaré le général Abdelhamid Zaidi, commandant des opérations dans le secteur de Diyala. Depuis le début de l'opération lundi, il n'y a pas eu de confrontation directe, a précisé une source à l'AFP. L'armée fait face à des tireurs embusqués et des bombes placées le long des routes. Pour la première fois depuis le début de la campagne contre l'État islamique, un soldat britannique a trouvé la mort en Syrie. Comme une centaine d'autres étrangers, Constantinos Eric Scarfield s'est engagé aux côtés des Peshmerga, la milice kurde qui a combattu les djihadistes à Kobané, près de la Turquie. L'ancien membre des Royal Marines était en Syrie depuis le 7 décembre dernier. Sa mort a été confirmé aujourd'hui par les autorités britanniques. On termine avec du sport. Grève de foot aux États-Unis. À 2 jours du début de la saison MLS, le syndicat des joueurs n'a pas pu trouver un accord global salarial avec l'organisme dirigeant du championnat nord-américain. Une nouvelle réunion est prévue pour ce mercredi avec pour but de trouver une solution via un bail de 5 ans. Sinon, la grève menace donc de continuer. Et puis, tirage au sort de la phase finale de l'Afrobasket 2015. Ce sera dans un mois, le 4 avril à Tunis, pour connaître les affiches du championnat d'Afrique des nations masculines. Vous écoutez VOA Afrique, la suite c'est Sahel Plus.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.